Et voilà, chers amis, je commence toujours avec chers amis. Hein. Nous sommes donc à quelle date? Nous sommes le 5 mai 2021 et nous avons le portrait numéro 8. Après Kierkegaard, voici Dostoïevski. Dostoïevski, personnage extrêmement important dans la littérature russe et mondiale. Et donc, je vais vous présenter son image du Christ. Mais avant cela, évidemment, je vais vous parler un peu de sa biographie et puis de sa personnalité. Vous voyez, il y a biographie et puis quelques réflexions sur le Christ. Et puis, il y a un article de Freud, de Sigmund Freud, qu'il a écrit en 1927 sur Dostoïevski et le parricide. Ensuite, nous allons lire le texte, nous allons prendre le dernier quart d'heure pour lire les extraits du texte des frères Karamazov, la légende du grand inquisiteur que je vous ai sélectionné, avec un petit tableau pour vous expliquer un peu, à mon avis, les grands ressorts de l'argumentation de Dostoïevski. Alors, Dostoïevski, c'est un destin tout à fait particulier. Il a un ou deux frères, je n'ai pas creusé plus loin, je crois qu'il en a deux, Mikhaïl et André. Et il est le fils d'un tyranno-domestique assassiné par ses serfs. Donc voilà, il était un propriétaire terrien, un pomestique. Et jusqu'en 1861, donc il y avait en Russie le servage. Le servage était des espèces, pas tout à fait, mais enfin des espèces d'esclaves qui vivaient sur un domaine. Ils devaient travailler dans ce domaine. Évidemment, ils étaient logés, nourris, etc. Ils étaient sous la houlette, si on veut, de leur maître, mais ils n'étaient propriétaires de rien. Donc, 1821, Dostoïevski, naissance de ce père qui était donc assez colérique, agressif, cruel, etc. 1821, c'est l'année de la mort de Napoléon, hein, aussi. Et après une enfance difficile, il fréquente une école d'officiers. Voilà, il se forme pour être militaire. Mais évidemment, dans ces milieux, on parle beaucoup de politique. Et il se lie avec des mouvements progressistes, si bien qu'il est arrêté pour cette raison à l'âge de 28 ans, en 1849. À ce moment-là, il a déjà écrit une douzaine de petits romans, car il était un lecteur effréné dans sa jeunesse. Et donc, il aime lire, et puis, bon, voilà, il est tenté par l'écriture lui-même. Alors, cette arrestation le conduit à une condamnation à mort. Et avec 12 autres compagnons, il est condamné à mort, il est mis sur le peloton, devant le peloton d'exécution, et on dit « en joue ». Et au moment où ils vont tirer, « ah, le tsar vous gracie ». Le tsar vous fait grâce et vous envoie 5 ans au bagne, à la place de cette exécution. Évidemment, vous vous rendez compte, quelqu'un qui est à une seconde de mourir, toute l'expérience qu'il a accumulée avant, cette seconde où tout à coup il est gracié, évidemment pour aller au bagne, bien sûr, il a la vie sauve, mais le bagne n'est pas non plus une partie de plaisir. Et donc ce simulacre d'exécution, évidemment, l'a marqué. Il a frôlé la mort, comme peu de personnes l'ont fait dans leur vie. Et voilà, ce bagne se termine en 1854. Il a donc 33 ans. 33 ans. Sa vie est partagée en deux. D'entre les forçats, il ressuscite comme un homme nouveau. Dans cette vie géniale et sombre, dit Tillyet, la lumière du Christ, Lux in tenebris, n'a jamais vraiment vacillé. Le Christ a toujours été présent. Et pourquoi? Eh bien, entre autres, parce qu'au moment de partir pour le bagne, une femme, les femmes ont beaucoup d'importance dans la vie de Dostoïevski dans ses romans, une femme décembriste, donc aussi un peu liée à tous ces milieux politiques, lui offre un Nouveau Testament. Il part au bagne avec pratiquement rien, et malgré tout, dans sa poche, il a ce Nouveau Testament comme un talisman contre le désespoir. L'Évangile a la puissance de dissoudre les cœurs de pierre. Fin février 1854, il écrit cette première lettre au retour du bagne à cette femme qui lui a offert ce livre, Natalia von Wissin, je me suis composé un credo où tout est pour moi clair et sacré. Il y a 33 ans donc. Ce credo est très simple, le voici. Croire qu'il n'y a rien de plus beau, de plus profond, de plus sympathique, de plus raisonnable, de plus viril et de plus parfait que le Christ. Et que non seulement il n'y a rien, mais, je me le dis avec un amour jaloux, qu'il ne peut rien y avoir. Plus que cela, si quelqu'un m'avait prouvé que le Christ est en dehors de la vérité, et si réellement la vérité était en dehors du Christ, j'aurais plutôt envie de rester avec le Christ qu'avec la vérité. Alors, sous le mot vérité ici, il y a parfois un malentendu, comme l'explique Pierre Pascal, un grand connaisseur, plutôt Frédéric Bouillet, à l'introduction à ce livre de Pierre Pascal. La vérité, pour lui, c'est la vérité des philosophes. Hein. C'est un peu la vérité construite par les philosophes, et notamment les philosophes occidentaux, parce qu'il est un russophile incroyable, évidemment. Hein. Comme nous allons le voir. C'est d'ailleurs une de ses limites, si on veut, à la fois de sa force et de sa limite. Et donc, ces années ne sont pas stériles. Ce seront d'ailleurs le matériau de toute une série de romans et de personnages qu'il va dépeindre, parce que pratiquement tous les personnages de ces romans sont des gens qu'il a rencontrés, alors dont il caricature un peu les traits, bien sûr, il met deux personnes en un seul personnage ou inversement, il les divise. Mais cette foi renouvelée, qu'il a trouvée au bagne, dans des conditions très dures, va désormais le guider dans sa vie privée, dans sa vie d'écrivain et dans sa vie politique. Donc sa vie d'écrivain avait déjà commencé avant le bagne, puisqu'il avait déjà quelques petits écrits. À son retour du bagne en 1854, donc il a 33 ans, il rencontre Maria Isaïeva, une femme qu'il va épouser, mais leurs relations n'ont jamais été simples. Et d'abord, quand il la rencontre, elle était mariée, avait un fils, mais le mari était un peu compliqué, je ne sais pas très quoi. Mais donc ils attendent que le mari décède, en effet, ils se marient. Mais ils sont toujours restés dans des relations difficiles. Pour Maria, il était plus un frère qu'un époux. Maria elle-même décéda après une longue maladie en 1864. Et donc ils se sont connus pendant 10 ans. Ce n'est que dans les dernières années qu'ils ont vraiment été mariés. Et ils sont toujours restés unis, oui, par des souffrances réciproques qu'ils s'infligeaient l'un à l'autre, sans le vouloir, mais ce n'était pas un amour serein, un sentiment serein. Cette Maria, eh bien, on la retrouve sous les traits de Natacha dans le roman Humilié et offensé. Les titres de ces romans sont toujours extraordinaires. Les possédés, les démons, humilié, offensé, crime et châtiment, voilà. Des choses qui frappent l'idiot. Hein. Alors, son épouse décédée, il a 43 ans, ben, il avait rencontré une jeune étudiante à l'université lorsqu'il faisait des conférences. Elle avait 22 ans et lui 42, et il en fait sa maîtresse. Elle partageait ses goûts littéraires, sa passion charnelle, sa liaison resta secrète, mais Apollinaria Suslova vraiment la baladait un peu dans tous les sens, et voilà. Et pourtant, elle laisse un souvenir indélébile dans la vie de Dostoïevski et dans tous ses romans. Elle apparaît dans plusieurs romans, sous des traits un peu divers. Voilà, ici fantasque, impétueuse, là fière et nerveuse, là prête à se sacrifier inconsidérément, etc. Bon. Mais c'est finalement Anna Snitkina, qui était sténographe et qui s'est proposée pour aider, pour travailler avec Dostoïevski lorsqu'il écrivait Le Joueur, qui devient sa femme. Il y avait 25 ans de différence entre deux, et l'écriture du roman les passionna tous les deux, il écrivait Le Joueur, et il épousa donc Anna, qui l'apaisa et qui lui donna vraiment un vrai bonheur. En 1867, donc, voilà, il est marié et il y aura 14 ans de mariage jusqu'à sa mort en 1881. Elle lui donne stabilité, équilibre, plus ou moins, hein, comme elle peut. Hein. Mais justement, elle accepte Dostoïevski tel qu'il est. Et elle se rend compte que, évidemment, c'est un homme, par exemple, qui joue, hein, qui a toutes sortes de défauts. Mais elle se rend compte que tous ces cycles font partie un peu du cycle de sa créativité littéraire, hein, de ces espèces d'excès de créativité, et elle l'accepte tel qu'il est. Un premier enfant naît, Sonia, qui meurt assez rapidement. Et voilà, ce grand malheur aussi, eh bien, les lie malgré tout, la mort de la petite Sonia. Ensuite, il aura trois autres enfants, dont un va de nouveau mourir. En 14 ans de vie commune avec l'écrivain, Anna traversa nombre de souffrances, comme la mort des deux enfants, la jalousie de son mari, son addiction au jeu, aux cartes, à la roulette, etc. Mais elle ne se plaignit jamais de son sort et resta une amie fidèle de Dostoïevski jusqu'à son dernier souffle. En 1881, il est mort d'une hémorragie. Et voilà, 14 ans de vie commune. C'est peut-être parce qu'Anna était l'unique femme qui accepta Dostoïevski tel qu'il était sans vouloir le changer, qui avait compris que ses cycles alternaient avec des phases de créativité intense, que voilà, elle parvint à le rendre heureux et à mettre une certaine harmonie dans la vie de l'écrivain. Les œuvres principales de Dostoïevski, ben, vous les connaissez sans doute, mais je cite les quatre romans fleuves. Alors vous savez qu'il écrivait des feuilletons dans les journaux, hein, comme beaucoup d'ailleurs à l'époque, hein, Alexandre Dumas, Kierkegaard aussi d'ailleurs. Voilà, on remplissait les journaux avec une ou deux pages de feuilletons. Et donc il était payé à la ligne, hein. Donc il fallait qu'il écrive. Ce qui a donné Crime et Châtiment en 1866 avec Raskolnikov, L'Idiot avec le prince Mishkin en 1869, Les Démons 1871 avec Kirillov et Stravogin, et puis Les Frères Karamazov qui a été achevé 2 mois avant la mort de l'écrivain. Avec les trois frères Karamazov, donc Alyosha, Ivan et Dimitri. Alors, quelques caractéristiques de la littérature de Dostoïevski par rapport au Christ. Lien impérissable du Christ et de la liberté. Le Christ est venu apporter la liberté. Voilà, pour lui, la liberté est une chose extrêmement importante et n'est possible que quand on est croyant et quand on croit au Christ. Parce que c'est le Christ qui libère par un pardon vraiment... presque sans limite. Dostoïevski rattache la vérité divine crucifiée à la liberté de l'esprit humain. C'est l'esprit qui est libre. Et il est libre grâce à ce Christ qui a été jusqu'au bout, hein, d'un pardon vraiment dramatique. La religion du Golgotha, eh bien, est la religion de la liberté. Et il dit par exemple, ce n'est pas comme un gamin que je crois, parce qu'il était entouré d'athées évidemment, hein, de gens qui voulaient faire de la politique, mais en disant la religion nous en empêche, etc. Ce n'est pas comme un gamin que je crois au Christ, et que je le confesse. Mon hosanna a passé par le grand creuset du doute, comme le dit le diable. Dostoïevski a exploré toutes les solutions à la question de l'homme. Chaque personnage est quelqu'un qui cherche, hein, une réponse à la question de l'homme. Et il a trouvé qu'il n'y avait qu'une seule solution, qu'une seule réponse à la question de l'homme, le Christ, l'homme-Dieu. Par exemple, dans Les Démons, Les Possédés, c'est le même ouvrage, hein, qui a deux titres différents, selon les traducteurs, en 1872, eh bien, il y a un athée, Kirillov, un athée de rigueur, comme ça, hein, comme Nietzsche se présentera après, qui se suicidera pour montrer sa liberté face à Dieu qui n'existe pas. Voilà, avec des tensions extraordinaires dans cette psychologie de personnage. Hein. Dans un paroxysme fou, il se suicidera pour manifester sa pure et formidable liberté gagnée contre Dieu. Qui existe, qui n'existe pas, mais ça c'est la question. Le fameux Stavrogin est la figure où s'est exercé avec succès la puissance de Satan. Satan tente l'homme, hein, comme il a tenté le Christ. Et d'ailleurs, la légende du grand inquisiteur est une reprise des tentations du Christ, des trois tentations du Christ. Eh bien, il se suicidera, lui, pour se châtier dans une radicale autopunition. Mais évidemment, Satan se retourne contre lui-même, hein, c'est ça ce que dit Jésus lui-même. Hein. Quand un royaume est divisé, il ne peut que s'effondrer. Le Christ, par sa seule existence, détourne et défait tous les arguments des athées. Le Verbe s'est fait chair. En réalité, tout est là. Le Christ de Dostoïevski est la suprême personnalité morale de l'histoire de l'humanité. C'est cette moralité qui fait la beauté incomparable de l'homme-dieu. Et l'esthétique émane de la moralité. Avec Kierkegaard, il y avait des questions, hein, l'esthétique, la morale, le religieux, comment est-ce que ça s'emboîte? Eh bien, pour lui, la beauté n'existe que dans cette moralité de l'abaissement du Christ. Un moment de réflexion christologique se concentre dans la légende du grand inquisiteur que Dostoïevski met dans la bouche d'Ivan, un des trois frères Karamazov. Nous étudierons ce texte dans le dernier quart d'heure, à partir des extraits que je vous ai donnés. Alors, il ne faut jamais penser que Dostoïevski adhère à tout ce que ces personnages disent, évidemment. Hein. Il met ces personnages en contradiction les uns avec les autres. Où est sa propre pensée dans toute cette dialectique entre ces personnages? Un peu comme Kierkegaard avec ses pseudonymes, hein, qui dit « Aucun des personnages pseudonymes ne reflète mes propres pensées. Il n'y a que les textes signés de moi qui reflètent ma pensée. » Et donc voilà, c'est une mise en scène eh bien de toutes les pensées qui traversent Dostoïevski ou des gens qu'il a rencontrés, avec lesquels il a été confronté. Dans les romans de Dostoïevski, il y a beaucoup de personnages. C'est ce qui fait un peu la difficulté aussi de la lecture. Hein. Non seulement il y a 800-900 pages, mais après, tout à coup, réapparaît quelqu'un qui était apparu 200 pages avant, qui est tout à fait capital maintenant, on ne sait plus qui il est, surtout avec les noms russes. Hein. Bon. Voilà, une liste de personnages impressionnantes, mais avec quelques figures christiques, quelques personnages théophores qui portent Dieu, qui portent le Christ, mais d'une manière très subtile. Ce ne sont pas des copier-coller, ce ne sont pas des modèles, mais ce sont des figures qui ont quelque chose de christique. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent en énigme la personne de Jésus. Par exemple, l'idiot, le prince Mishkin dans l'idiot, est un personnage extraordinaire. Hein. Tous les gens qu'il rencontre, eh bien, le trouvent un peu bête, comme ça, mais cette manière d'être qu'il a force les gens à changer d'attitude. Hein. Force les gens, je ne dis pas à se convertir, mais tout à coup, il y a des problèmes et des vices et des colères qui tombent, et les gens, pour lui faire plaisir ou parce que je ne sais pas quoi, eh bien, il dissout autour de lui toute une série de problèmes, de personnes méchantes qui deviennent un peu différentes à son contact. Alyosha Karamazov, évidemment, est aussi un personnage christique. Mais lui, il est plutôt génial. Hein. Et il semble bien que, eh bien, Alyosha a eu pour modèle Soloviev. Soloviev, qui est un grand philosophe et théologien russe, beaucoup plus jeune que Dostoïevski, mais ils sont entrés en amitié. En amitié. Les dates de Soloviev, c'est... il est né en 1853, donc il avait 32 ans de moins que Dostoïevski, mais ils sont devenus amis. Lorsque Soloviev, qui était un génie extrêmement précoce, à 20 ans, a rencontré Dostoïevski, il avait 52 ans. Mais ils ont vraiment été amis pendant les années qu'ils ont pu vivre ensemble, ça veut dire 8 ans seulement, hein, de 1873 à 1881. Mais cette amitié a été très importante. De ce jeune homme génial, avec cet écrivain mûr et tourmenté. Alyosha donc a trouvé ce modèle. Il s'agit de faire passer dans ces personnages christiques, de faire passer la lumière du Christ dans des vases d'argile. C'est Saint Paul, hein. Nous sommes des vases d'argile et nous le resterons. Comment faire passer à travers cette argile la lumière du Christ? Dostoïevski décrit une existence au contact de laquelle une présence du Christ se manifeste, tout en signifiant l'impossibilité de peindre le mystère du Christ. Autour de ces deux personnages, Michkine et Alyosha, le monde commence à se dissoudre. Les autres êtres changent, vacillent. Mais ces deux personnages ne sont pas le Christ, et on voit toujours la différence. Et encore plus avec le prince Michkine, puisqu'il retombe dans une espèce de folie, un peu de débilité à la fin du roman. Cela suggère que la présence du Christ se poursuit et s'achève dans des destins humiliés, entre l'infantilisme et la force angélique de ce prince Michkine. Ces personnages nous réveillent de notre sommeil théologique ou spirituel, hein, en nous montrant le Christ dans des personnages vraiment inattendus. L'amour pour les pécheurs et le pardon. La forme et la ressemblance divine existent encore et toujours, selon Dostoïevski, même chez les individus les plus déchus. Le Christ est tout au bout, dans la profondeur de l'homme. La planète tout entière, avec tout ce qu'il y a dessus, sans ce Christ, n'est que folie et mensonge. Le Christ est une merveille d'amour et par là un miracle de création et de séduction. Et cet amour des pauvres, des humiliés, des pécheurs, des délinquants, des criminels, eh bien, ça va très loin chez Dostoïevski, même si lui-même, eh bien, dit qu'il ne le comprend pas. Tu crois que je parle des pauvres, du moujik, des ouvriers, ils sont si puants, si grossiers, ivrognes. Je leur souhaite tout le bien possible, mais je ne comprends pas comment je pourrais les aimer. Je ne comprends pas comment le Christ, lui, consentit à les aimer, à aimer cela. Je ne comprends pas l'amour du Christ. Pourtant, il en est proche, lui aussi, hein, de tous ces humiliés. Mais il dit que le Christ aime d'une manière extraordinaire ses pécheurs, ses criminels. L'amour des pécheurs est dans tous les grands romans de Dostoïevski. Les malheureux et les pécheurs, les criminels ne sont pas exclus de l'image du Christ. Ils sont témoins du Christ, en étant témoins de son pardon. Alors un personnage qui reflète vraiment bien cela, c'est Sonia, la compagne de Raskolnikov dans Crime et Châtiment. Sonia, c'est une prostituée, mais qui est la bonté même. Hein, qui a la bonté même pour son compagnon, qui est un fameux Rastaquer, hein, mais pour tout le monde. Sonia, la prostituée. C'est le nom de leur première petite fille. Voilà, Freud a une interprétation de cet amour pour les pécheurs, etc., pour les délinquants, nous allons voir ce qu'il en pense. Hein. L'amour de Dostoïevski pour la Russie. Eh bien, même s'il a été au bagne, alors, souvenez-vous que quand même la Russie a donc évolué au cours de la vie de Dostoïevski, puisque quand il est allé au bagne en 1849, il y avait encore des serfs, hein, notamment ceux qui ont tué son père. En 1861, le servage a été supprimé. En fait, en 1858, je l'ai mis en note sur la feuille de route, tous les serfs de la couronne ont été libérés. 20 millions, s'il vous plaît. Hein, 20 millions. Le tsar a libéré 20 millions de personnes. Très bien. Ensuite, trois ans plus tard, tous les autres, les comtes, etc., ont dû libérer aussi leurs serfs. Alors c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur dit, ben voilà, vous êtes libres, maintenant vous êtes dans la rue, quoi. Hein? Parce que la terre, bien sûr, ça nous appartient. Donc cette terre sur laquelle vous étiez, vous travaillez, vous plaignez d'être esclaves, ben maintenant vous êtes libres, mais vous êtes dans la rue. Donc 20 millions de SDF, hein? Parce que ça, c'est la liberté. Mais ça ne va pas du tout. Hein. En Amérique latine, encore aujourd'hui, comme vous savez, il y a la question de la distribution des terres. Hein. Il y a des haciendas énormes avec un seul propriétaire qui ne fait rien de ces terres, et puis des paysans qui sont dépouillés ou dépossédés de leur instrument de travail, si on veut, qu'est la terre, même si, bien sûr, ils n'en sont pas légalement le propriétaire. Voilà. Eh bien, malgré donc ce bagne, il y a l'évolution de la libération du servage. En 1861, lui continue à vivre, bien sûr, puisqu'il mourra 20 ans après cette loi, hein, sur la suppression du servage. Eh bien, donc, Il est amoureux de la Russie malgré tous ses problèmes, hein, avec beaucoup d'agitation politique. Il paraît qu'il était plutôt progressiste au début de sa vie et conservateur à la fin. Mais ça dépend, hein, parce que, à mon avis, il n'a peut-être pas tellement varié, mais les progressistes sont des générations suivantes sont devenus encore plus progressistes, donc l'ont considéré comme conservateur. Hein. Bon, c'est comme les 68ards aujourd'hui, ce sont des révolutionnaires, mais on dit oui, là, hein, de bon papa, quoi. Bon, voilà. Donc, je n'entre pas dans cette politique russe qui est très compliquée, qui mènera bien sûr à la révolution de 1917, et la légende du grand inquisiteur en est comme un aperçu prophétique inquiétant. Hein. Mais donc, ces dernières années, celles de la vie de Dostoïevski, sont marquées par des discours enflammés sur l'âme russe, sur le peuple russe, sur la supériorité du génie russe sur toutes les nations. Il attribue un rôle messianique au peuple russe et à l'orthodoxie du peuple russe, seul peuple capable de comprendre tous les autres et d'avoir ses spécificités nationales. Selon lui, le peuple russe a pour mission d'apporter le bonheur à l'humanité. Voilà, il est absolument convaincu de ça. Freud trouvera que c'est vraiment une limite morale, hein, dans le jugement de Dostoïevski. Le peuple russe est le corps mystique du Christ. Dostoïevski est fanatiquement anti-romain, anti-romain, anti-jésuite. Le grand inquisiteur, c'est un cardinal jésuite. Alors, par parenthèse, il n'y a jamais eu un seul inquisiteur jésuite. Hein. Donc c'est une fiction historique complète. Mais voilà, il fallait mettre un jésuite là dans ce rôle. Donc il est terrible contre les jésuites. Il est farouchement hostile à toutes les christologies humanitaires, socialistes, protestantes, libérales, à la manière allemande et tout ça. Bon. Le Christ de Dostoïevski, c'est le Christ théandrique, profondément russe. L'auteur est vraiment typiquement slave par le choix de ses deux plus grands thèmes, hein, la force irrationnelle de la passion humaine, et l'existence ou non de Dieu. Voilà, ça c'est typiquement slave, hein, ces deux questions, la passion et sa force, et aussi la question de Dieu. À la fin de sa vie, Dostoïevski est devenu un fervent croyant. Il a abandonné tout ce qu'il y avait d'agnosticisme dans ses premières années, et comme je vous l'ai dit, il succombe à une hémorragie. Alors la date c'est en 1881, mais ça dépend de quel calendrier, le vrai ou le faux, hein, calendrier romain qui est faux, et le calendrier grégorien qui est vrai, bien sûr. Hein. Donc c'est le 28 janvier ou le 9 février, selon le calendrier. Parfois on trouve comme ça des incohérences, hein, c'est parce qu'il y a deux calendriers donc. Hein. Ces obsèques nationales ont lieu le 12 février 1881 et sont suivies, paraît-il, par 30 000 personnes. Vraiment, il était le porte-flambeau, hein, de cette idée slavophile. Il est enterré à Saint-Pétersbourg. Alors maintenant, je m'attarde sur l'article de Freud sur Dostoïevski. Voilà, je l'ai lu dans l'édition allemande ici, hein, Bildende Kunst und Literatur. Donc Freud a été sollicité pour écrire cet article. Pourquoi ? Parce qu'en 1925, eh bien, on édite les œuvres complètes de Dostoïevski en allemand. Et on dit, voilà, c'est un auteur quand même très compliqué au niveau psychologique. Freud, sans doute, hein, pourra nous faire une belle introduction. Et Freud, il accepte, mais un peu ungern, un peu à contre-cœur, comme ça. Hein, parce qu'il n'aime pas tellement Dostoïevski. Pourtant, il admire beaucoup, et vous allez voir que je crois qu'il a bien compris certaines choses chez Dostoïevski, mais peut-être pas tout, évidemment. En tout cas, au niveau de la foi, il comprend mal, hein, c'est sûr. Mais voilà, il est un peu mal à l'aise avec cette demande, d'autant que, eh bien, Stefan Zweig vient de publier en 1920 Drei Meister, Trois Maîtres, Dickens, Balzac et Dostoïevski. Donc, un Français, un Anglais et un Russe. Il a publié une très belle étude de ces trois auteurs qui sont pour lui trois maîtres de littérature. Stefan Zweig étant lui-même un maître. Donc en 1920, pourquoi n'a-t-on pas demandé à Stefan Zweig? Je ne sais pas, on voulait quelque chose de Freud, quoi. Alors, il écrit cet article, d'ailleurs dans la dernière partie, il reprend Zweig sur la question de l'addiction au jeu. parce que Zweig est aussi quelqu'un qui a de grandes intuitions psychologiques, hein, comme Dostoïevski, comme Kierkegaard et tout, et Freud le reconnaît. Alors, il commence en disant qu'il va étudier cette riche personnalité de Dostoïevski sous quatre angles de vue. Voilà, Dichter, l'écrivain, un Ethiker, le moraliste, Sünderverbrecher, le pécheur, le criminel, et l'épileptique. Alors, l'écrivain, c'est très bref. Il dit, ben, c'est pas ma spécialité, hein, donc je vais laisser ça à d'autres, Zweig par exemple, hein, mais il dit quand même, pour moi il est évident que Dostoïevski a sa place pas loin derrière Shakespeare. Pas loin derrière Shakespeare. Et à la sixième ligne, il parle des frères Karamazov et de la légende du grand inquisiteur. Donc voilà, ça c'est vraiment le passage clé, hein, de Dostoïevski. De plus, Freud, l'inventeur du complexe d'Édipe, vous savez, pour le garçon, hein, aimer sa mère, vouloir tuer son père pour avoir sa mère, fait remarquer que trois auteurs colossaux de la littérature mondiale ont écrit trois chefs-d'œuvre absolus qui parlent du meurtre du père. Sophocle avec Édipe Roy, c'est d'ailleurs de cela que Freud s'inspire, hein, pour, travailler son complexe d'Édipe. Hamlet de Shakespeare et les frères Karamazov de Dostoïevski. Trois chefs-d'œuvre, trois monuments de la littérature mondiale. Et dit-il, comme par hasard, eh ben, c'est la question de tuer son père qui est au centre de ces trois grandes œuvres. Voilà, mais donc il n'insiste pas sur la question de l'écrivain. Le moraliste. Alors, vous allez voir qu'ici, il est assez moralisant, notre ami Freud. Hein. Dostoïevski a, selon Freud, une intention de moraliste dans ses romans. Je crois que c'est vrai. Il veut apprendre à son lecteur comment faire le bien, comment éviter le mal. Il veut l'aider à bien discerner, à choisir, à agir. Sur ce plan, Freud estime qu'il n'est pas crédible. Dostoïevski est un pulsionnel. Il se présente sans fin à travers ses personnages, mais dans sa vie aussi, comme un pécheur repentant. Eh bien, ce n'est pas suffisant pour être un professeur de morale. Hein. Un pécheur repentant, bon, ben, ça va, très bien. Qu'il se repente, hein, qu'il fasse pénitence, mais qu'il ne fasse pas la leçon aux autres, estime Freud. Mais il dit que c'est un trait russe caractéristique. C'est beaucoup trop facile, hein, d'être un pécheur et puis de dire « Oui, mais attention, je vais faire un grand pèlerinage à Optina, hein, au monastère, aller trouver un starès qui lui-même, bon, ben... s'est converti assez tard dans sa vie, etc. » Bon, il dit, c'est trop facile. Ça, c'est les Russes, c'est trop facile. De plus, dit-il, eh bien, son étroit nationalisme russe montre une faille importante pour le moraliste qui devrait être plus dégagé, plus universel. Un vrai moraliste ne peut pas être aussi nationaliste que ça, selon Freud. Eh bien, cette facette, la question de du professeur de morale que serait Dostoïevski, eh bien, montre le point faible de sa riche personnalité. Le point faible. Avec bien, bien des circonstances atténuantes, nous allons le voir. Mais Freud se montre assez moralisant et assez sévère. Dostoïevski a vraiment raté quelque chose, dit-il, hein, qui appartenait à ses vraies intentions et peut-être à sa vocation. Et, je le cite, hein, vu sa haute intelligence et vu la force de son amour pour autrui, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Parce qu'il lui reconnaît une grande capacité d'aimer, un grand besoin d'être aimé, mais aussi une grande capacité d'aimer, de pardonner, etc. Et puis une très haute intelligence. Eh bien, avec ces deux atouts, il aurait pu faire mieux. Voilà, ça, ce sont les points que Freud donne à notre ami Dostoïevski. Le pécheur, est-ce que... sous l'angle du péché, de la délinquance, de la criminalité, est-ce que Dostoïevski est un pécheur, un criminel lui-même, hein, est-ce qu'on voit ça à travers ses romans, il en présente sans cesse. À l'évidence, il n'est pas un saint. D'accord. Mais, dit Freud, il n'est pas mauvais. Au contraire, il y a une grande bonté en lui. Il éprouve un grand besoin d'être aimé, et même une grande capacité à aimer, à pardonner, à se sacrifier pour l'autre. Freud envoie la preuve dans ses relations avec sa première épouse, Maria, compliqué, etc. Mais il a attendu la mort de son premier mari, et puis il l'a soigné jusqu'à la mort dans une grande maladie que cette mariée a eue, donc ils ont vécu peu de temps ensemble, vraiment mariés. Malgré tout, il a montré une bonté, avec sa maîtresse aussi, Apollinaria, qu'il a vraiment un peu ridiculisée, etc. Eh bien, il a été capable de supporter, de pardonner, de revenir, de renouer après des difficultés. Cela fait partie de sa riche et complexe psychologie tourmentée, mais bonne dans le fond. Car en fait, et là c'est son explication, bon évidemment ça c'est bien psychologique, car dans le fond il est masochiste. Il a un surmoi sadique, et ce surmoi sadique eh bien, se dirige vers lui-même. Et lui-même, son moi est sadique, pardon, est masochiste, et le surmoi est sadique. Voilà, c'est une manière de voir, hein, qui a sa vérité, évidemment, dans certains cas. Son moi est masochiste, ce qui se voit dans le grand sentiment de culpabilité constante qu'il vit et qu'il entretient en lui-même et qu'il met constamment en scène. Pardon, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même fermer la fenêtre, parce que je trouve qu'il fait un peu frisquet ici. Ou la porte, ou la fenêtre, je ne sais pas. Il est donc un pécheur, puisqu'il est croyant. Et le péché est un concept théologique, devant Dieu. Mais il n'a pas une psychologie de délinquant. Il n'a pas une psychologie de Verbrecher, de criminel. On pourrait se poser la question quand même, parce qu'avec tout ce qu'il raconte dans ses romans... Cependant, selon Freud, il exagère sa sympathie pour le délinquant. C'est un peu exagéré. Elle est schrankenlos. Hein. Il y a vraiment, c'est sans limite qu'il pardonne à tous les pécheurs, à tous les criminels. Le pécheur en devient presque même un sauveur. Un sauveur. Hein. C'est pas possible. Il faut vraiment que le criminel soit là pour sauver le reste de l'humanité. Est-ce que c'est possible ? Il est cependant clairement, selon Freud, un névrosé. Et cette névrose dont nous allons maintenant traiter démontre qu'il n'a pas réussi à unifier sa psychologie, sa personnalité. Mais les circonstances atténuantes sont peut-être nombreuses. Et ici, je crois qu'il va quand même mettre le doigt sur un point que je n'ai jamais vu souligné ailleurs. On a beaucoup dit que Dostoïevski était épileptique. Eh bien, Freud, qui est quand même médecin et psychologue, distingue, avec d'autres bien sûr, une épilepsie constitutionnelle, qui est une caractéristique du cerveau depuis la naissance, si on veut, hein, une fragilité neurologique, et une épilepsie induite, secondaire, alors qui est parfois due à la vieillesse, par exemple, ou bien à l'alcoolisme, ou à d'autres choses. Donc une épilepsie qui vient ensuite, hein, peut-être sur un terrain un peu épileptoïde, mais voilà. Selon lui, l'épilepsie de Dostoïevski est une hystéro-épilepsie. C'est une épilepsie névrotique, conséquente à un traumatisme énorme. À un traumatisme énorme. Alors lequel ? Ben, on pense à le peloton d'exécution. Eh bien, il parle très peu de ce peloton d'exécution. Je suis étonné. Hein. Il parle du bagne, mais du peloton d'exécution, je ne vois pas qu'il le met en évidence. Mais il met ceci en évidence qui, à mon avis, est très important. C'est le meurtre de son père. Hein. Son père était violent. Il fut assassiné par ses serfs lorsqu'il avait 18 ans. Par elle-même, une mort pareille est déjà un traumatisme pour un fils. Hein. Mais ce fils désirait lui-même tuer son père. Parce que ce père était violent. Consciemment ou non, il voulait le tuer. Il en avait marre de ce père violent. Cette mort, donc, perpétrée par un autre, éveille en lui un puissant sentiment de culpabilité. Ce qu'il souhaitait, son désir de tuer, s'est réalisé. Ah, il souhaitait cette mort, elle s'est réalisée. Tu es coupable. Ses premières crises d'épilepsie sérieuses, en effet, arrivent juste après cet assassinat, pas avant. Je crois que cette remarque est vraiment très judicieuse au témoignage de son frère, mais aussi au témoignage de Soloviev, son ami, hein, son très jeune ami là. Comme enfant, comme knabe, cependant, eh bien, il était parfois envahi d'une profonde mélancolie qui induisait des états de sommeil prolongés. Alors pour lui, ça, pour Freud, c'est déjà un rapport à la mort, au sens où cette mort apparente hein, que constituent ces, ces sommeils prolongés, mais parfois de plusieurs journées, hein, eh bien, indique qu'il avait peur, il était traumatisé, il est entré dans une dépression, dans une mélancolie à cause de cette violence qu'il y avait dans la famille. Hein. Et voilà. Une preuve de cela, c'est que déjà, gamin, hein, il avait demandé que si jamais il dormait trop longtemps, qu'on ne le considère pas comme mort, et que s'il était mort, on attende 5 jours avant de l'enterrer. Pour être sûr que cette mort n'était pas un sommeil. Hein. Donc il sentait bien, très curieux, hein, il sentait bien que ces sommeils qui frisaient un peu la mort ben, étaient peut-être une réaction hein, à l'ambiance familiale, à la peur qu'il avait, etc. Alors, il apporte encore quelques autres preuves. Au bagne, pas d'épilepsie. Aucune crise d'épilepsie au bagne. Alors qu'il vient de subir le traumatisme du peloton d'exécution. Mais non. Au bagne, pourquoi? Eh bien, parce que la punition de ce sentiment de culpabilité, eh bien, elle est évidente. C'est la souffrance qu'il doit endurer comme bagnard. Donc, il n'a plus besoin de se punir lui-même par des crises d'épilepsie, ou enfin se punir lui-même, ou être tendu, hein, dans la gestion de ce sentiment de culpabilité, puisque je suis coupable, et eh bien je suis puni. Mais ben, tout va bien, quoi. Hein? Si vous vous sentez coupable et que vous n'êtes pas puni, ben, à la limite, vous êtes plus tourmenté que si vous êtes coupable même d'autre chose et qu'on vous punit. Alors vous dites, ben voilà, ben, au fond, je mérite quand même mon châtiment, quoi. On en parlera après, si vous voulez bien. Voilà, au bagne, pas de crise d'épilepsie. Pourquoi? Eh bien, parce que, selon Freud, hein, cette punition politique qu'il subit dans de très rudes conditions, eh bien, apaise ses sentiments de culpabilité vis-à-vis du père, projetés sur les autorités injustes et violentes qui l'ont condamné. Et les crises reviennent au retour du bagne. Il conclut donc que ben, cette épilepsie est due au dilemme qu'a induit en lui le meurtre du père, qu'il n'a pas perpétré, mais qu'il aurait bien perpétré lui-même. Alors, puisqu'il est maintenant quart, il faut aller un peu plus vite pour aller sur le texte. Donc, l'une des caractéristiques de Dostoïevski dans ses romans, c'est l'outrance des personnages. Ils sont très caricaturaux, ils sont très nombreux, l'outrance des situations aussi, des débauchés, des nihilistes, des femmes fatales, des mères prostituant leurs enfants, des alcooliques invétérés, hein, de nombreux personnages à la limite de la folie, mégalomanes, délire de persécution, sadisme, on trouve vraiment hein, toute une cour des miracles là, impressionnante. Mais il y a aussi des saints dont j'ai parlé, hein, Mishkin, Alyosha, le Staré Sozime, etc., mais les situations aussi sont toutes dramatiques. Hein. Meurtre, ruine soudaine, mariage annulé, maladie mortelle, suicide, tout ça se succède presque à la limite de la vraisemblance. Mais il y a encore une autre caractéristique, c'est que les personnages de Dostoïevski évoluent dans le roman. Alors ça va contre la règle classique hein, de l'unité de temps, de lieu et de personnage. Vous avez un personnage, il est toujours le même. Il est jaloux jusqu'au bout, hein, il est bon jusqu'au bout. Eh bien non, les personnages évoluent. Il y a plusieurs personnages qui évoluent très fort, hein, tels que Raskolnikov ou bien Arkady Dolgoruki dans L'Adolescent. C'est une rupture avec la tradition. S'opposent aussi de manière dialectique des points de vue extrêmement différents. Comme par exemple eh bien, Alyosha et Ivan Karamazov. Il a eu une influence puissante sur de nombreux philosophes, comme Nietzsche, André Suarez, Albert Camus, les existentialistes, René Girard. Vous savez que René Girard a fait sa thèse sur Dostoïevski, et il a trouvé là eh bien, le besoin inné d'imitation, qui est tout à fait marqué chez Dostoïevski dans beaucoup de ses romans. C'est là qu'il a pris l'idée du désir mimétique. Alors lisons maintenant les extraits que je vous ai donnés, rapidement évidemment, mais d'abord, les Jésuites et l'Inquisition, fiction historique comme je vous disais, puisqu'il n'y a jamais eu aucun Jésuite inquisiteur. Les Jésuites ont été complètement absents de l'Inquisition et de la Révolution française aussi. Donc les réfractaires, les assermentés, tout ça, ça n'a pas existé du côté jésuite. Ils ont échappé à ces dilemmes. Il y a même, au moins, enfin, Ignace de Loyola lui-même a été poursuivi par l'Inquisition, soupçonné d'être un alumbrado. Et il y a au moins un missionnaire au Brésil, là, italien, Gabriel Malagrida, qui a été brûlé par l'Inquisition. Sur la place du Rossio, à Lisbonne, je la connais cette place, eh bien notre ami Pombal, marquis de Pombal, eh bien voilà, il a fait faire un procès considéré par divers historiens comme grotesque, et le pauvre père, bien âgé, a été brûlé, garrotté et brûlé à Lisbonne. Voilà. Son amitié avec Soloviev. Soloviev, donc, de 22 ans, de 32 ans plus jeune que lui, mais absolument génial. Son père avait écrit 29 volumes d'histoire de la Russie, Soloviev. Donc il avait baigné depuis sa jeunesse dans une culture extraordinaire. Il mourra très jeune, en 1900, à 47 ans, après avoir écrit des choses fantastiques. Et d'ailleurs, il se convertira au catholicisme. Donc là, il n'était pas d'accord avec Dostoïevski, en tout cas vers la fin de sa vie. Il s'est converti au catholicisme. Et certains pensent qu'il est peut-être l'auteur ou l'initiateur de cette légende du grand inquisiteur. Qu'il en a eu une idée et qu'il l'a partagée. Alors comment est-ce qu'il aurait pu partager cette idée? Eh bien, par exemple, quand meurt son fils de 3 ans, Dostoïevski fait un pèlerinage à Optina Poustine en compagnie du jeune Soloviev. Et il marche des jours et des jours pour faire ce pèlerinage, pour se récupérer de la mort de ce fils. Et Dostoïevski a 57 ans, il va mourir dans 3 ans. Le jeune Soloviev a 25 ans, alors vous imaginez que ces deux génies, évidemment, en route pour aller trouver un starets et prier après la mort d'un enfant, se racontent des choses extraordinaires. Et peut-être, dit-on, Soloviev aurait inspiré, en tout cas à la fin de sa vie, lui-même faisait des paraboles de ce type-là. Alors, la légende du grand inquisiteur, je ne vais pas lire la première page ni la seconde. La première page, c'est « Jésus apparaît ». Nous sommes à Séville, au XVIe siècle. Un haut dignitaire de l'Église romaine estime que l'Évangile est impraticable, que Jésus a présumé des forces humaines en proposant un Évangile qui est trop dur. Et voilà que Jésus, apparaît à Séville alors qu'on vient de brûler cent hérétiques. Il apparaît tout à coup dans la foule. Chose curieuse, au bas de la page 476, tous le reconnaissent aussitôt. Et il ajoute, chose curieuse, chose singulière, il y aurait la matière à l'un des meilleurs passages du poème, dire pourquoi ils l'ont tous reconnu. Alors souvenez-vous, un des passages du poème, parce que c'est Alyosha et Ivan qui discutent. Ivan a décidé de partir, il ne verra plus son frère. Et puis il discute une dernière fois de la question de Dieu. Et Ivan lui dit, écoute, moi j'ai en tête un poème. Je vais écrire un poème. Et ce poème, c'est la légende du grand inquisiteur. Et alors, il est occupé un peu à construire son poème, tout en disant, tiens, ici je dirais plutôt ça, là il faudrait dire ça, etc. Donc voilà, question curieuse dans le poème d'Ivan. Tout le monde reconnaît Jésus qui apparaît tout à coup dans la foule. Alors, apparaît le grand inquisiteur. Jésus a entre-temps ressuscité une petite fillette qui était morte. Il la ressuscite. Et voilà le grand inquisiteur, un vieillard de près de 90 ans, grand et droit, au visage décharné, aux yeux creux, qui reconnaît tout de suite Jésus aussi et qui en est très agacé. Il ordonne qu'on l'arrête, on l'arrête et on l'amène dans une geôle, dans une prison. Et tout à la fin de la page, là vous avez la première parole du grand inquisiteur à Jésus, c'est donc toi, toi. Mais ne recevant pas de réponse, il se hâte d'ajouter, tais-toi, ne dis rien. Et en effet, Jésus ne dira rien, rien d'un bout à l'autre de cette légende. Donc, il va faire un discours fleuve, ce grand inquisiteur, pour expliquer à Jésus que son évangile, ben, on en a marre, quoi. Il a donné la liberté à l'homme, il a complètement surestimé les forces de l'homme. Le grand inquisiteur, lui, il veut libérer les hommes de ce fardeau de la liberté. Et donc, bon, il est occupé à, il ne le dit pas comme ça, mais à installer une sorte de dictature, hein, pour libérer les hommes de leur, de ce poids. Alors nous prenons là, je vous ai mis A, B, C, D dans les marges de la page 484 et 495, A, B, et puis C, D dans la page suivante. Je lis un petit peu. Ils viendront, les gens, disant, donnez-nous à manger. C'est la première tentation du Christ, hein. Transforme ces pierres en pain. Car ceux qui nous ont promis le feu du ciel nous ont trompés. Voilà, on nous a promis d'aller au ciel avec la charité divine, mais nous achèverons alors la construction de la tour de Babel. Hein. Car ceux-là seuls qui nourriront les hommes pourront mener cette entreprise à bonne fin. Et nous les nourrirons, nous et personne d'autre. Nous le ferons en ton nom, en mentant et en nous réclamant de toi. Sans nous, ils ne pourraient pas vivre en ce monde et seraient toujours affamés. La science ne leur donnera pas de pain aussi longtemps qu'ils demeureront libres. Mais ils finiront par jeter leur liberté à nos pieds en nous disant « Asservissez-nous, mais nourrissez-nous ». Ils comprendront eux-mêmes que la liberté n'est pas compatible avec le pain terrestre et ne leur permet pas d'en avoir chacun en suffisance. Car jamais ils ne parviendront à le partager équitablement. Les hommes, parce qu'ils sont libres, se battront toujours pour avoir plus de pain que l'autre, donc il y aura toujours des affamés. Ils se convaincront aussi de l'impossibilité d'être libres, car ils sont faibles, pervers, médiocres et prompts à la révolte. Tu leur as promis le pain du ciel. Ils s'en foutent, hein. Mais je te le demande encore une fois, peut-il se comparer au pain terrestre ? Aux yeux de la multitude, éternellement perverse et ingrate. Si des milliers ou des dizaines de milliers d'hommes sont prêts à te suivre pour le pain céleste, que feront les millions et les milliards d'êtres qui ne se sentiront pas la force de renoncer au pain terrestre pour celui du ciel ? N'aurais-tu de tendresse que pour ces quelques milliers, ces quelques dizaines de milliers d'âmes grandes et fortes ? Et les millions d'hommes, les foules innombrables comme le sable de la mer qui sont faibles, mais qui t'aiment, eux aussi, doivent-ils servir uniquement de matière exploitable au profit des grands et des forts ? Donc les saints, ouais, voilà les saints, eh bien, ils sont généreux et ils marquent la différence avec ceux qui ne le sont pas. Hein. Et donc les autres sont des pécheurs, des pervers et tout ça, eh bien, tant mieux pour les saints finalement. Qui peuvent comme ça montrer leur sainteté par leur différence et éventuellement en aidant ces pauvres gens. Eh bien, nous en jugeons autrement, nous. Et les faibles sont chers à notre cœur. Le grand inquisiteur, il aime les faibles, il aime les pécheurs. Mais il ne va pas leur proposer la sainteté parce qu'il sait bien qu'elle est impossible. Il va leur proposer du pain. Ils sont méchants, révoltés, mais ce sont ceux-là justement qui deviendront, pour finir, les plus soumis. Ils nous admireront et nous prendront pour des dieux parce que nous aurons accepté, en nous mettant à leur tête, d'assumer le fardeau de leur liberté. Nous allons prendre sur eux leur conscience, leur sentiment de culpabilité, leur châtiment, et nous en répondrons devant Dieu, qui n'existe pas. Ça, on ne leur dit pas, évidemment. Hein. Nous savons que Dieu n'existe pas. Mais nous leur disons, nous répondons de vos péchés devant Dieu, ne vous tracassez pas. Hein. Au jugement dernier, nous vous défendrons. Et les gens le croiront. Et donc, ils vont pécher avec la permission du grand inquisiteur et de ses sbires. Tellement cette liberté leur sera devenue odieuse à la longue, nous leur ferons croire cependant que c'est à toi qu'ils obéissent. Parce que nous n'allons pas leur enlever la foi dans la vie éternelle. Nous allons dire que la vie éternelle existe. Qu'ils vont rencontrer Jésus là-bas. Hein. C'est à toi qu'ils obéissent et que nous les gouvernons en ton nom. Nous leur mentirons encore sur ce point, etc., etc. Voilà, donc l'idée c'est que dans le petit tableau, hein, la première tentation change ces pierres en pain. Eh bien, le moyen pour sauver l'humanité, c'est d'abord de leur donner à manger par le miracle. Le miracle du pain, Jésus n'a pas voulu le faire. Eh bien, les scientifiques du grand inquisiteur vont le faire. Il faut une élite scientifique qui va régler tous les problèmes de pain, et j'ai même ajouté de santé, hein, sans aucune allusion à personne. Voilà, avec ce miracle de la science, de cette élite scientifique, qui fait partie de, voilà, des amis du grand inquisiteur, on va résoudre le problème matériel. Ça, c'est les moyens. Ensuite, il y a, je prends le B de la page en face, vous voyez, 495B. Nous leur permettrons aussi de pécher, puisqu'ils sont si faibles. Mais la liberté, c'est quand même dur à porter, parce qu'on a tout le temps se demander, est-ce que je vais faire le bien, est-ce que je vais faire le mal, et quand on a fait le mal, on est tourmenté. Non. Maintenant, c'est fini. Plus personne ne fait rien du tout sans notre permission. Vous voulez pécher ? Eh bien, on va vous le permettre, mais si par ailleurs vous êtes obéissant, etc., deux, trois trucs, hein, bon. Et certains oui, certains non, mais comme ça, au moins, vous aurez la conscience tranquille. Vous péchez tranquillement. Et nous prendrons, au jugement dernier, le châtiment sur nous. Nous leur permettrons de pécher, puisqu'ils sont si faibles. Et ils nous aimeront comme des enfants à cause de notre tolérance. Hein, l'enfant qui veut un bonbon, on lui dit non, c'est mauvais pour la santé. Il s'en fout, lui, hein, il veut avoir le bonbon. Et quand on lui donne, ben, il est content. Mais il n'est pas bien éduqué. Voilà. Et nous les aimerons comme des enfants. Ils nous aimeront comme des enfants. Nous leur dirons que tout péché peut être racheté s'il a été commis avec notre consentement. Nous leur permettrons de pécher parce que nous les aimons. Le Christ dit l'inverse. Hein? Parce que nous les aimons, nous leur permettrons de pécher. Et quant au châtiment, nous le prendrons sur nous, tant pis. Ils nous chériront comme leur sauveur, et nous, car nous accepterons de répondre de leurs péchés devant Dieu. C'est ce qu'ils disent, mais ils savent que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est le mystère. Donc je vous ai mis là le but. C'est donc d'atteindre le ciel, d'être heureux. Hein. Et ça, eh bien, c'est le mystère. Non pas l'homme, image de Dieu, et Dieu se faisant homme, mais quelques hommes se font Dieu, et Dieu n'existe pas. Ça, c'est le vrai mystère, hein, de la vie. Voilà, c'est un secret que seuls les quelques dizaines de milliers de dirigeants, hein, connaissent, la nomenclatura. Eux, ils connaissent, hein, le fin mot du mystère, mais évidemment, on ne va pas le dire à tout le monde. Alors, je prends la page suivante, en rognant quelque peu sur l'heure qui m'était impartie. Voilà, le C. Nous sommes de ceux qui travaillent à corriger ton œuvre. Vous voyez la page 497, sur la troisième feuille, au-dessus. Je suis revenu de l'erreur, parce qu'avant, ce grand inquisiteur qui est jésuite, il a évidemment mené une vie ascétique, une vie mystique et tout ça, puis il s'est rendu compte à la longue que tout ça, c'était pas vrai. Il est revenu de cette erreur. Je suis revenu de l'erreur, hein, de la vraie foi, enfin, la vraie foi quant à nous, quoi, hein. Et j'ai rallié le camp de ceux qui travaillent à corriger ton œuvre. J'ai quitté les rangs des orgueilleux. Tous ces saints, ce sont des orgueilleux, des pharisiens, qui se prennent pour meilleurs que les autres. Hein. Et je me suis joint aux humbles pour coopérer à leur bonheur. Ce que j'annonce aujourd'hui s'accomplira et notre royaume s'instaurera en ce monde. Et alors, fin du paragraphe, il dit à Jésus, « Demain, tu seras brûlé. » Dixi. Je l'ai dit. Yvan se tue. On est dans le roman, bien sûr. Hein? Donc, Yvan est occupé à inventer son poème, je dirais sur place, comme ça. Hein? Yvan se tue. Il s'était échauffé en parlant et avait achevé son récit dans un élan passionné. Quand il eut fini, un sourire parut subitement sur ses lèvres. De sceptique. Alyosha avait écouté en silence, mais vers la fin, en proie à une agitation intérieure violente, Alyosha avait tenté à maintes reprises d'interrompre son frère. Il s'était contenu néanmoins jusqu'au bout. Maintenant, il laissa éclater son indignation, bondissant presque de son siège. « Mais, c'est une absurdité » s'écria-t-il en devenant tout rouge. « Ton poème tourne en réalité à l'éloge du Christ, non à sa confusion. » souvenez que c'est un personnage christique, hein, Alyosha. Ainsi que tu le désirais, semble-t-il, qui donc acceptera ta façon d'interpréter la liberté? Et ainsi, est-ce ainsi qu'il faut la comprendre, voyons? L'Église orthodoxe ne la conçoit pas du tout à ta manière. C'est la conception des catholiques romains que tu exposes. Et pas même de tous ces catholiques, c'est faux. Des plus mauvais d'entre eux. Il les défend quand même un peu, hein. Les plus mauvais des catholiques, c'est-à-dire les membres de l'Inquisition et les jésuites. D'ailleurs, ton grand inquisiteur, il est invraisemblable. C'est un personnage fantaisiste qui ne saurait exister dans la réalité. Quels sont donc ces péchés des hommes qu'il prétend avoir pris sur lui? Voyez donc, après avoir fait un poème extraordinaire, hein, où on a presque l'air convaincu, quoi, Alyosha dit, mais non, c'est faux tout ça. Où as-tu vu ces détenteurs du mystère qui auraient accepté on ne sait quelle damnation pour le bonheur de l'humanité? Quand donc ont-ils existé? Nous connaissons les jésuites, on dit beaucoup de mal d'eux, mais ressemblent-ils réellement au portrait que tu en fais? Ils ne sont pas du tout ainsi, mais pas du tout, ils représentent simplement l'armée de l'Église romaine pour la conquête future de l'Empire terrestre, à la tête duquel sera placé le grand pontife de Rome, avec rang d'empereur. C'est là leur idéal, ils ne comportent ni mystère, ni noblesse, ni noble tristesse incomprise. C'est la soif de domination la plus élémentaire, l'amour des biens terrestres, le désir d'asservir ses semblables. Ils rêvent d'une sorte de retour au servage, 1861-1880, hein, on vient d'abolir le servage, dont ils seraient les pomiestiki, ça veut dire les propriétaires terriens. Voilà, alors il essaie un peu de défendre les inquisiteurs et les jésuites à sa manière, et je prends le tout dernier paragraphe. Il semblait même à Alyosha que son frère Ivan le regardait d'un air moqueur, comme s'il avait raconté une fausse légende et qu'il voyait que l'autre l'avait prise au sérieux, mais bon, il ne sait pas, hein. Comment s'achève ton poème, demanda-t-il tout à coup, les yeux baissés. S'arrête-t-il là? Et alors Ivan, j'avais pensé la terminer de la façon suivante. S'étant-tu, le grand inquisiteur attendit une réaction de son prisonnier. Son silence lui pesait. Le captif s'était borné, pendant qu'il parlait, à fixer sur lui un regard doux et pénétrant, visiblement résolu à ne pas entrer en discussion. Le vieillard aurait préféré qu'il lui répondît, fût-ce en lui disant des choses amères ou terribles. Sans prononcer un mot, il s'approcha soudain du vieillard et l'embrassa avec douceur sur ses lèvres exsangues de nonagénaire. Ce fut toute sa réponse. L'inquisiteur tressaille sous ce baiser et quelque chose tremble au coin de sa bouche. Il se dirige vers la porte, l'ouvre et lui dit « Va, maintenant, et ne reviens plus, plus du tout, plus jamais. » Voilà, donc, finalement, le Christ, hein, a résisté à ce discours fleuve du grand inquisiteur et a eu un geste que Dostoïevski a imaginé, hein, ce geste d'un baiser en silence, qui fait que finalement le grand inquisiteur, qui voulait le brûler le lendemain, et bien lui dit « Va-t'en, va-t'en, allez, laisse-nous tranquille. » Et donc, le grand inquisiteur essaie d'instaurer un royaume où tous les gens auront de quoi manger, en bonne santé, où il y aura une idéologie, hein, plus ou moins religieuse, enfin religieuse pour les pauvres, et en fait une pure idéologie pour les dirigeants. Comme je vous ai dit, hein, ce n'est pas question de Dieu, mais on va quand même continuer parce que les gens y croient. Et les acteurs, eh bien, c'est cette élite politique, une élite politique, qui joue avec l'autorité en faisant croire aux gens qu'ils obéissent librement. Alors pour qu'ils croient qu'ils obéissent librement, on brûle de temps en temps quelques révoltés, parce qu'il y aura toujours quelques révoltés, hein. Eh bien, on va les brûler pour prouver aux autres qu'ils obéissent librement. Puisqu'ils peuvent se révolter, hein. Libre à eux de se révolter, hein. Et si vous ne vous révoltez pas, c'est que vous obéissez librement. Parce que, révoltez-vous, vous serez brûlés, il n'y a pas de problème, hein. Alors tout le monde dit, oui, mais c'est l'autre qu'on brûle, hein. Donc c'est pas moi, moi je suis libre, l'autre il est un peu fou, il est révolté, c'est bon comme ça. Mais ça fait partie, ce puissant châtiment de certains, une toute petite frange hein, de la masse, aide voilà, à ce que tout le monde soit bien tranquille dans l'obéissance. Voilà, je vais arrêter ici. Lisa avait déjà une question qu'on va écouter, mais je vais d'abord éteindre mon matériel.